Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Edmond Sadaka.
C'est le journal en français facile. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le présente en compagnie de Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
Bonsoir Edmond, bonsoir à tous.
À la une, à Bruxelles, pour la première fois, les dirigeants des pays de l'Union européenne se sont retrouvés ce mercredi à 27 sans le Royaume-Uni. Ils ont précisé les limites pour le divorce à venir avec Londres, en particulier sur l'accès au marché unique.
Cette onde de choc du Brexit n'a pas fini de bouleverser la politique britannique. Le Premier ministre démissionnaire David Cameron appelle aujourd'hui le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, à quitter lui aussi ses fonctions alors qu'il refuse de partir pour le moment.
Et puis toujours pas de revendication au lendemain du triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul. Boule en Turquie qui a fait 41 morts et environ 240 blessés. Les autorités sont persuadées que c'est le groupe État islamique qui a organisé cette opération kamikaze.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
41 morts et 239 blessés, c'est le dernier bilan officiel de l'attentat commis hier soir à l'aéroport international d'Istanbul. Il s'agit de la cinquième attaque kamikaze en Turquie depuis un an.
13 étrangers figurent parmi les victimes, 5 Saoudiens, 2 Irakiens, des citoyens de Chine, de Jordanie, de Tunisie, d'Ouzbékistan, d'Iran encore et d'Ukraine. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Les enquêteurs examinent les vidéos de ce drame et ils entendent les témoignages de rescapés. On fait le point avec notre correspondant Alexandre Billette.
Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas encore été divulgués, mais certains détails du scénario sont déjà largement évoqués. Au moins 3 personnes, peut-être plus, ont participé à cette attaque suicide. Ils seraient arrivés à l'aéroport en taxi quelques minutes avant de passer à l'acte. Un mode opératoire qui évoque celui de Daesh. Les assaillants ont voulu visiblement faire le plus de victimes. Les hommes qui ont ouvert le feu sur la foule avant de déclencher leur ceinture d'explosifs. Un scénario qui pointe du doigt l'État islamique, même si aucune revendication n'a été faite pour le moment. Il faut savoir que Daesh n'a jamais revendiqué d'action sur le territoire turc, en dépit des nombreux attentats qui lui ont été attribués, ou plutôt qui ont été attribués à des groupuscules turcs sympathisants de Daesh, mais sans nécessairement de lien, du moins direct, avec la direction de l'État islamique. L'enquête se poursuit donc, et déjà ce matin, l'aéroport Atatürk a été rouvert à la circulation aérienne, en dépit d'une partie du terminal international, toujours bouclée par les policiers. Alexandre Billette, Istanbul, RFI.
Et le triple attentat suicide qui endeuille aujourd'hui la Turquie vient de conduire Vladimir Poutine à enterrer la crise diplomatique qui empoisonnait depuis plusieurs mois les relations entre les deux pays.
Des relations tendues en effet depuis qu'un avion russe a été abattu par l'armée turque à la frontière syrienne en novembre dernier. Et aujourd'hui, à la suite d'une conversation avec Recep Tayyip Erdogan, le président russe a décrété en début d'après-midi qu'il annulait donc les sanctions économiques contre l'État turc dans le domaine touristique et il assure qu'il va continuer dans cette direction. À Moscou, Muriel Pomponne.
Vladimir Poutine a tout d'abord adressé ses sincères condoléances au président Erdogan concernant l'attentat d'Istanbul. D'après l'agence Interfax, le Kremlin examine maintenant la possibilité d'une rencontre entre les deux chefs de l'État dans un proche avenir. Et Moscou va plus loin que de simples intentions. En effet, le Kremlin annonce que les restrictions de voyage vers la Turquie pour les citoyens russes vont être levées. Vladimir Poutine affirme qu'il a reçu toutes les garanties de sécurité pour les touristes russes, en dépit des menaces terroristes. Le président russe va également donner des instructions pour que le gouvernement entame des discussions afin de rétablir la coopération bilatérale en matière économique et commerciale, notamment. Le Kremlin parle d'un processus de normalisation des relations avec la Turquie. D'ores et déjà, une rencontre est annoncée entre les deux ministres des Affaires étrangères vendredi dans le cadre de la réunion de l'Organisation de coopération de la mer Noire qui va se tenir à Sotchi. Moscou a donc décidé d'oublier l'incident du 24 novembre quand un avion russe a été abattu par un chasseur turc, bien que les deux pays ne soient pas encore d'accord sur la question des compensations que Moscou réclamait à Ankara. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
La Turquie peut aussi compter sur l'aide des États-Unis. Le président Barack Obama l'assure ce soir. Washington aidera Ankara aussi bien pour l'enquête sur cet attentat, ce triple attentat, que pour le renforcement de la sécurité.
Les journaux en français facile.
À quoi ressemblera la future relation entre les 27 et le Royaume-Uni? C'est la question qui a été évoquée aujourd'hui à Bruxelles par les chefs d'État et de gouvernement européens réunis en sommet sans David Cameron.
Mais les contours de cette relation donc entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont encore très flous. Les 27 attendent que Londres notifie son désir de sortir de l'Union, donc le concrétise par écrit, ce sera fait par le prochain Premier ministre désigné en septembre prochain. En attendant, ils préviennent le Royaume-Uni. Pas question pour Londres de négocier un accès à la carte au marché unique après sa sortie de l'Union européenne. À Bruxelles, l'envoyé spécial de RFI Anastasia Becchio.
Les mises en garde ont fusé de toutes parts alors que la question de l'immigration a joué un rôle majeur dans la campagne du Brexit. Les Britanniques ne pourront pas restreindre la libre circulation des personnes s'ils veulent avoir accès au marché unique. La chancelière allemande Angela Merkel est très claire là-dessus.
L'accès au marché intérieur ne peut se faire qu'en respectant les quatre libertés fondamentales de l'UE. La Norvège, par exemple, a plein accès au marché intérieur et elle accepte en contrepartie ces quatre libertés.
Quatre libertés, liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Indissociable, c'est aussi l'avis de François Hollande.
Il ne peut pas y avoir de dérogation. On ne peut pas prendre trois libertés, en écarter une quatrième. Notamment la liberté de circulation des personnes. Si le Royaume-Uni voulait, dans le cadre de cette négociation, donc à son terme, accéder au marché intérieur, il faudrait que le Royaume-Uni en accepte toutes les règles.
Pas de marché unique à la carte, donc pour le Royaume-Uni, c'est aussi l'avis de Donald Tusk, le président du Conseil. À ses côtés, le président de la Commission européenne, appelé à jouer un rôle de premier plan dans les futures négociations, a renchéri. Les Européens, prévient Jean-Claude Juncker, ne toléreront aucune exception à cette règle. Anastasia Becchio, Bruxelles, RFI.
Et puis à Bruxelles, toujours la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, est venue défendre le maintien de son pays dans l'Union européenne. Et lors d'une conférence de presse ce soir, elle se dit optimiste et encouragée par la volonté d'écoute qu'elle a trouvée auprès des présidents de la Commission européenne et du Parlement européen. Mais elle admet, elle reconnaît que la voie n'est pas toute tracé pour l'Écosse, c'est-à-dire que les choses ne seront pas forcément faciles.
Et à Londres, le choc provoqué par le Brexit n'a pas fini de bouleverser la politique britannique.
Au Parti travailliste, les choses se passent plutôt mal. Jeremy Corbyn a beau avoir perdu la confiance des trois quarts de ses députés, il refuse de démissionner. Chez les conservateurs, l'après David Cameron se prépare. À Londres, Muriel Delcroix.
Étonnante situation ce mercredi au Parlement britannique. Les deux dirigeants qui se sont fait face lors de la première séance des questions au Premier ministre depuis le Brexit pourraient bien perdre leur travail dans les prochaines semaines. Le Premier ministre David Cameron est démissionnaire et l'appel à candidature pour l'élection de son successeur a ouvert ce matin. Mais pour l'instant, aucun des deux favoris, l'ancien maire de Londres Boris Johnson et la ministre de l'Intérieur Theresa May, ne se sont encore déclarés. De son côté, le dirigeant Labour Jeremy Corbyn a été désavoué par 81% de ses députés et son refus catégorique de jeter l'éponge ne laisse d'autre choix à ses adversaires que de le défier via un nouveau vote. On s'attend donc à ce que les députés travaillistes annoncent dans la journée le déclenchement d'une élection au sein du parti. Deux noms circulent, mais c'est surtout Angela Eagle, en charge du commerce dans le Shadow Cabinet, jusqu'à ce qu'elle démissionne lundi, qui est la favorite parmi ses collègues députés. Pour cela, il faut qu'elle obtienne le soutien de 20% des parlementaires travaillistes, puis ce sont les membres et militants Labour qui décideront lors d'un vote postal et électronique, et c'est ce qui pourrait permettre à Jeremy Corbyn de se maintenir à la tête du parti, car il compte sur le soutien des sympathisants qui, rappellent-ils sans cesse, l'ont élu il y a 9 mois à 60%. Muriel Delcroix, Londres,
RFI.
Le président français François Hollande estime qu'une victoire du candidat républicain Donald Trump à la présidentielle américaine compliquerait les rapports entre l'Europe et les États-Unis et que cette élection serait dangereuse.
Des propos tenus dans un long entretien accordé au quotidien Les Échos à paraître demain. Dans ce même entretien, François Hollande parle également bien sûr de politique française. Il fait un signal notamment à sa gauche en confirmant une nouvelle baisse d'impôts en 2017 pour les classes moyennes.